j'ai fini le taf. Que veux-tu que je fasse ? Boire dans les bars avec mes collègues, enchaîner les pintes et les tequila paf. Profiter du coucher de soleil tout en critiquant tous ceux qui m'agacent. Shooter des zombies dans les salles d'arcade, faire du footing ou de l'escalade. Pour sculpter mon body puis chasser les pigeons avec une sarbacane. Pour finir en prison après une sale gardave. Squatter les catacombes toute la night avec un verre d'ayahuasca. Parquer Biggie dans un open mic et le check est genre hey yo what's up. Crusher sur des actrices les DM, recevoir des dick pics de CM. Traîner sur le darknet et DL, des photos de vacances Dix DTL. Appeler tous mes BFF, dépenser tous mes billets verts. Voler une fusée SpaceX.
Aujourd'hui sur notre antenne, nous recevons l'artiste Hippocampe Fou qui démarre actuellement une tournée pour la sortie de son nouvel album, Présent. Un mot, une invitation, une philosophie, être là, avec lui et avec sa famille, qui l'emmène dans cet opus et signe un passage de maturité. Hippocampe Fou, une âme franche et sincère, une sensibilité profonde qui nous transporte d'un univers rap underground à une poésie presque guinguette où miroitent les reflets d'une vie familiale qui serre le cœur de quiconque écoute ce nouvel album. Et il est avec nous aujourd'hui sur les ondes de Radio Pays d'Hérault, RPH Sud. Alors bonjour Hippocampe Fou.
Bonjour, ça va ?
Parfaitement, et de vous entendre là dans ce début de tournée, là vous avez l'air bien d'attaque. Comment ça se passe cette tournée ?
Bon, pour l'instant ça se passe très bien. Évidemment quand on vient présenter un nouvel album et les morceaux qui le composent, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Alors j'avais une petite idée en me basant sur les retours sur les réseaux sociaux, mais on est dans un monde virtuel, donc il y a beaucoup de bienveillance, les retours sont très positifs, mais après est-ce que ça fait le taf en live? Et pour l'instant, les quelques concerts qu'on a pu faire, ça marche très bien. C'est pour moi un album particulier. Enfin, je veux dire, j'ai toujours été très sincère, en tout cas dans mes derniers albums, mais là il y a quelque chose de très personnel. Et le fait aussi de venir avec ma famille. Donc, je ne m'accompagne pas, tout le monde ne vient pas à chaque date, mais là, par exemple, on a pu jouer à La Rochelle où j'habite. Donc, évidemment, ma fille est venue, ma sœur aussi, et c'était un grand moment, un grand partage avec le public, et puis c'était beau souvenir. Donc, pour l'instant, tout va très bien. Voilà. Espérons que ça continue.
Ah oui, on vous le souhaite. Et effectivement, c'est vraiment une configuration très particulière, un choix. D'où est venu ce choix d'emmener votre famille avec vous là, sur cet album ?
Il y a eu un déclic qui était le premier déclic, c'était le fait d'enregistrer mes enfants sur le refrain du premier morceau de l'album qui s'appelle Demi-vieux, qui est le premier morceau écrit pour cet album. Et quand j'ai capturé leur voix, j'ai senti quelque chose de très fort. Enfin, j'ai eu des frissons. C'était très touchant parce que je les entendais dans mon casque pendant qu'ils s'enregistraient et je me disais, ah, je suis en train d'immortaliser en fait cet instant, et je capture leur voix comme quand on fait une photo de famille en fait, et que c'est des choses qui restent pour toute la vie, y compris pour eux quand je serai plus là. Donc ça m'a touché et je me suis dit, ah, j'ai envie de reproduire ça sur plusieurs morceaux, parce que j'ai aussi la pratique des ateliers d'écriture. J'anime des ateliers d'écriture depuis une quinzaine d'années. J'ai cette capacité, on va dire, à faire écrire les gens qui sont novices et à les accompagner vraiment dans cette écriture, dans l'interprétation. Et voilà, c'est des ateliers chanson rap. Et je me suis dit, si j'arrive à le faire avec les enfants de CE2, je dois pouvoir y arriver avec mes enfants et ma sœur. Donc je me suis dit, essayons. Et puis, comme on a eu aussi un événement tragique qui nous a bouleversés, mais qui nous a aussi soudés, réunis, bah, c'était une évidence. Voilà, c'était évident que ça allait être sur la famille et avec la famille, cet album.
Eh bien, c'est très fort, effectivement, comme orientation artistique, là, pour le coup. Et j'allais en venir, oui, aux ateliers d'écriture. J'ai aperçu, au travers de votre biographie, cette partie de votre activité, finalement. D'où ça vous vient, enfin, ce rapport, finalement, aux mots, à l'écriture, ça vient du parcours scolaire, de votre famille?
Alors, mon grand-père était prof de maths, Donc, le côté didactique, accompagné, sans, on va dire, sans aucune, comment dire, comme un grand-père le fait pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire qu'il n'était pas sévère, peut-être qu'il était avec ses propres élèves, mais en tout cas avec moi, il était à la cool et il m'expliquait des choses que je n'avais peut-être pas bien assimilées en cours. Et donc cette étude approfondie des maths, moi j'aimais beaucoup ça et je me rappelle quand j'étais au lycée, ben je me disais soit je serais comédien, enfin acteur, soit je serais prof de maths. Voilà, comme mon grand-père. Et puis finalement, j'ai fait des études de ciné et pendant les études de ciné, je me suis passionné pour le rap et l'écriture pour moi. Et je sais pas, quelques années après, une fois que je me sentais un peu plus légitime, puisque j'écrivais depuis suffisamment longtemps, ben je me suis senti à ma place en tant qu'intervenant dans des ateliers d'écriture. Voilà. Au départ, j'y allais un peu comme ça, avec ce syndrome de l'imposteur, en disant, ah, mais ça fait 4 ans que j'écris, qu'est-ce que je vais leur apprendre, etc. Et maintenant que j'ai toutes ces années de pratique et aussi du coup d'activité en tant que intervenant dans des ateliers d'écriture, je me sens totalement légitime et j'ai l'impression d'être dans une autre phase de ma vie où je suis plus comment dire. Je pense que quand on commence, on débute, on a envie d'être sous le feu des projecteurs et d'être le centre d'attention. Voilà, il y a un truc très nombriliste en tant qu'artiste. Quand on débute, c'est normal. On est dans des petites salles, on se dit ah j'aimerais tellement être dans une grande salle avec plein de gens qui m'adulent et tout ça. Et on a un truc à se prouver au niveau de l'ego. Et une fois qu'on y est parvenu, puisque moi j'ai pas de rêve inatteignable, moi je ne rêve pas de faire Bercy, Coachella. Enfin c'est pas du tout dans mes objectifs. Moi c'était déjà d'avoir la reconnaissance de ceux que j'aime, de mes pairs artistiques, enfin tous ceux qui ont pu m'influencer, et réussir à voilà avoir une communauté, un public fidèle. Et à partir de là, le fait d'être dans la transmission me semble évident. Et je pense que ça va avec l'âge que j'ai, puisque j'ai eu 40 ans cette année. Et je crois qu'il y a ce truc-là. Il y a beaucoup de sportifs qui deviennent coach, ou je sais pas moi, des musiciens qui deviennent producteurs et qui travaillent pour d'autres, etc. Et donc moi, cette idée de tendre le micro un peu et de dire, bon, ça ne veut pas dire que j'ai fait mon temps, j'ai terminé, mais juste, j'ai envie de transmettre. Voilà, je le fais avec mes enfants. En tant que papa, en tant que parent, mais je peux le faire aussi avec des plus jeunes artistes. Et donc là, par exemple, à La Rochelle, où j'habite, on organise des soirées assez régulièrement. Voilà, pour l'instant, on n'a fait pas tant que ça, mais l'idée, c'est de mettre en avant des jeunes artistes locaux ou d'un peu partout en France qui moi, me touchent et j'ai envie de mettre en avant. Voilà.
Oui, il y a un passage de transmission, effectivement, oui, lié un peu au cycle de la vie, de la quarantaine, oui, certainement.
Ben, je crois que c'est naturel.
Nos souvenirs s'effritent, on attend la suite. On fait des petites dates, ces instants trop rares. Partie de belote avec Pépé, mémé, tricote. Je m'ennuie, comme chaque été, je suis loin de mes potes. Les yeux dans le vague, je grimpe aux arbres et je sifflote. Je combats les monstres imaginaires comme Don Quichotte. Pépé écoute mes anecdotes, je parle que de cinéma. Sur un sentier de montagne en short sous les épices et maman vient d'accoucher, papa s'achète un caméscope. Ma sœur c'est sa nouvelle mascotte. Chaque mercredi avec Laurent et Cacadi, on se fait des burritos, on loue des films, on s'avachit. Papa travaille la nuit avec son groupe de mariachi. Souvent il reste au lit ou compose sur son Atari. Bercé par ses mélodies, obsédé par les filles du lycée. Premier spiff sur fond de rap et fou rire alcoolisé. Ma sœur et moi on parle moins, nos liens sont distendus. La nuit je dors plus, je regarde des films de Kubrick. J'ai jamais rien vu d'aussi beau, jamais rien senti d'aussi fort. La femme que j'aime a fabriqué ce tout petit corps. Elle m'appelle déjà papa, je suis son mentor. Parfois, elle me parle et j'écoute pas, j'ai tellement tort. Parce que ces phrases, elle les répétera pas. On a beau dire qu'on ne vit qu'une fois, au fond, on n'y croit pas. Maintenant, j'ai 3 enfants qui jouent des étoiles dans les yeux. Je profite de ma famille et ça pour ces instants précieux. On a beau dire que le temps passe vite. On s'en rend compte, toujours. Nos souvenirs s'effritent. On attend la suite. On fait des petites dates, ces instants trop rares.
Tempête de fin de siècle, coupure d'électricité. Des zombies sous mon lit veulent me grignoter les pieds. Mais j'ai pas peur vu que t'es dans la chambre à côté. Avec tes prises de jus d'eau, tu vas tous les démonter. Papa nous récupère à la gare, maman rigole. Main dans la main, ribambelle et je décolle. J'aimerais qu'on vive ensemble pour l'éternité. Mais parfois la nuit j'entends des pleurs étouffés. Tu dors chez qui ce week-end? Chez ton père ou ta mère? Bah, je vais plutôt squatter chez mon frère. C'est mon cocon, mon nuage de coton. Ma nièce et moi on joue et je lui fredonne des chansons. J'apprends la gratte, c'est ma seule activité. Pour oublier que mon premier amour m'a quitté. Mémé est morte, pépé radote. On joue aux cartes à deux, j'aime bien quand on papote. Premier jour de taf, la fille me baffe, je cherche en vain ma place. Dans le métro j'angoisse, le soir je déprime dans mon sas. Ma famille s'est éparpillée. On me prend déjà pour une adulte, moi j'ai rien vu arriver. Laissez-moi tranquille, pas pété. Je veux juste retourner sous ma couette pour échapper à la réalité. Faut que j'arrête. Je pousse la porte du studio, un casque sur la tête. Mon frère est avec moi et là ça rec.
On a beau dire, on a beau dire que le temps passe vite, on s'en rend compte toujours trop tard. Nos souvenirs s'effritent, on attend la suite. On fait des petites dates, ces instants trop rares.
Et par rapport à ce rapport aux mots, vous n'avez pas plongé, enfin, dans votre enfance, dans la poésie ou la chanson française, enfin, il n'y a pas eu un peu ce bain là.
Il y a eu. Alors moi, c'était les images. Moi, c'était le cinéma vraiment ma passion et c'était monomaniaque. Hein, moi, je faisais que voir des films, écouter de la musique de films, parler d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs. J'étais focus sur le ciné tout le temps et évidemment que j'entendais. Ce qui passait à la radio et que je regardais les chaînes avec des clips comme MTV, etc. Mais ça ne m'attirait pas plus que ça. Mais comme j'ai mon père qui est musicien et que j'ai baigné dans cette atmosphère musicale et avec les influences latino-américaines, puisque les Colombiens, je pense que j'avais quelque chose dans le sang et puis qui s'est développé aussi avec toutes ces années. Et quand la musique m'a attrapé, c'était pendant mes études de ciné, en fait, et c'était comme une passion secondaire. C'était genre, je me découvrais une autre passion, puisque j'étais en train de faire du ciné toute la journée, enfin, d'étudier, de décortiquer des films. Et d'un coup, je me suis dit, ah, la musique, c'est bien aussi, c'est sympa. C'était comme pour décompresser après une journée à regarder des films, parce que c'était ça, la fac de ciné. Il fallait que je décompresse et donc j'allais faire du rap avec mes copains et c'était génial parce que j'arrivais avec toute ma naïveté et aucune connaissance musicale. Enfin voilà, j'avais peut-être des prédispositions et une certaine oreille, mais je connaissais pas, je savais pas ce que j'étais en train de faire quand j'écrivais. Et donc c'était transformer une matière textuelle, des mots, en musique. C'est ça en fait que j'ai trouvé génial, c'était des plein de mots qui correspondaient à des images, parce qu'il y avait quand même ce rapport à l'image et au cinéma. Et je pouvais prendre toutes ces images et d'un coup, baf, les balancer comme ça en rythme et créer quelque chose de dansant et en même temps de qui faisait un petit peu cogiter les gens qui écoutaient. Et c'est pour ça que je dis dans ma bio depuis plusieurs années que j'aime faire danser les mots. Voilà, c'est cette manière-là, c'est ça qui m'a attiré au départ. C'est cette matière textuelle, les mots que je trouve plus ou moins beaux. Il y en a qui évoquent des belles images, mais il y en a aussi qui sonnent très bien et qui sont et qui en fait ont une musicalité.
Oui, j'avais noté effectivement. Pour vous, les mots sont de la matière musicale.
C'est ça.
Et si pour revenir à votre album, il s'agit d'un album apparemment avec un concept particulier, une application qui est reliée à l'album. Comment ça fonctionne? De quoi s'agit-il vraiment?
Alors, de quoi s'agit-il? Ça a interrogé. Enfin, les gens se sont posé plein de questions parce que on a balancé ça sans tuto, sans manuel, et c'était vraiment aux gens de se débrouiller et de comprendre. Maintenant que c'est sorti et que le coup de com entre guillemets est passé, je peux en parler plus en détail. En fait, on a, en gros, j'ai annoncé que j'avais perdu mon téléphone et que j'annulais donc la sortie de mon album parce que ça coïncidait aussi avec des coups de pression professionnels, etc., et des choses qui m'énervaient et qui m'énervent vraiment d'ailleurs hein, sur le plan de l'industrie musicale, etc. Donc c'est basé quand même sur des vrais moments de doute que j'ai pu avoir. Et donc j'annonce que j'annule la sortie de mon album, et quelques jours plus tard, un hacker, une hackeuse, met mon téléphone en ligne, enfin c'est-à-dire qu'on peut accéder à mon téléphone, ça s'appelle hippocampphone.com, c'est un site, une appli, on peut télécharger, mais sinon on peut y aller directement sur le net. Et en fait, c'est comme si on était dans le téléphone d'Hippocampfou, avec des contenus très privés, de la vie de famille, donc des photos, des vidéos, des messages, dictaphone, notes, enfin tout ce qu'on peut retrouver dans un téléphone. Et en fait, tout ceci, c'est comme une version augmentée, étendue de l'album. C'est-à-dire que l'album se trouve dans le téléphone. Et donc les gens ont pu découvrir l'album en avant-première et tous les clips qu'ils composent, comme ça, en fouinant dans mon téléphone. Et l'idée, c'était de titiller le voyeurisme des gens, parce qu'aujourd'hui, on se stalk tous, on regarde la vie des autres. Et l'idée, c'est de les amener dans ma vie privée, avec évidemment un contenu qui est totalement orchestré et fictionnel, puisqu'on a décidé de tout ce qu'on mettait dedans, mais avec cette sensation de regarder par le trou de la serrure et de pouvoir voir un peu ce qu'est la vie d'Hippo, etc. Et donc cette idée, c'est mon ami Lolo, Laurent Mizrahi, qui d'ailleurs vit près de Montpellier et qui sera là au Rockstar, c'est lui qui a eu cette idée. Il est parti marcher dans les Cévennes avec ses ânes et il m'a dit: j'ai une idée ouf pour ton album intimiste, on va faire un truc, c'est genre t'as perdu ton téléphone et les gens ils vont pouvoir découvrir ton album en avant-première dans le téléphone. Voilà, bon bref.
Extra, extraordinaire idée.
Tout ça, c'était notre grande opération. Ça nous a pris des mois de réflexion. On a bossé avec un game designer, avec quelqu'un qui a développé l'appli, donc Maxime Ménard et Solène Baird. Voilà, bref, ils nous ont énormément aidés, accompagnés. On a fini par sortir ce truc-là. Les gens qui l'ont fait et qui ont découvert ça étaient sur le cul, je pense, parce que personne ne s'attendait à ce type d'expérience. Parce que c'est comme un jeu de piste, en plus, c'est comme un escape game où il faut trouver des mots de passe, etc. Enfin bon, bref, on s'est pris la tête. Mais au final, tout ça, c'était pour amener les gens à découvrir l'album d'une manière différente et de les interpeller, de se dire « Ok, Hippo et son pote Lolo, là, ils ont encore des idées un peu fofolles. » Comme, parce qu'à l'époque, on avait fait vidéo rap et c'était ça, finalement, qui à un moment a marqué les gens aussi et a fidélisé mes tout premiers auditeurs, auditrices. C'était cette web série vidéo rap dont était tirée la vidéo chez moi il y a là-bas. Et bref, et tout ça, on l'a fait il y a 15 ans. On était un peu les pionniers des web séries musicales. Enfin, ça n'existait pas vraiment sur Dailymotion, YouTube. Et on s'est dit, allez, on a 40 ans, on a des familles. Oh, là, tu fais un album sur tes enfants, le fait d'être papa, le fait de vieillir, etc. Et t'es dans quelque chose de très personnel. Et en même temps, essayons d'être actuels et de prendre des risques et proposer quelque chose de singulier pour cet album. Donc voilà. Voilà. C'est ça le concept de l'appli hippocampphone.com. Mais on peut ne pas y aller et juste écouter l'album. C'est tout à fait possible. Disons juste que dans l'appli, il y a des morceaux inédits qui ne sont pas sur l'album. Il y a des contenus inédits. Et voilà.
Excellent. Vraiment complètement innovateur dans le monde musical.
Ben, je sais pas. En tout cas, on a l'impression d'être les premiers, mais comme ça n'a pas, qu'on n'en a pas parlé au JT ou partout, etc. Bon, moi, je me dis que d'ici quelques années, quelqu'un va avoir l'idée et va le faire avec plus de moyens en mieux. Moi, je serai là pour, avec mon pote Lolo. On dira, on était les premiers, on s'en fout. Voilà.
Et nous, on le saura sur RPH.
Ouais, exactement, c'est ça.
Je sais pas comment tu vis sans Twitch. C'est triste comme tes sandwichs. Sur TikTok, t'es cringe, papa. Crois-moi, je te le dis, je m'en fiche. Ta vie, c'est un trait d'horreur, j'avoue. J'aurais préféré un featuring avec Natsu. Ris pas, je parle du Shiba. Il est plus suivi que toi, bref. T'es bon sur scène, mais dans les petites salles. On ne voit jamais dans les festivals. Je connais aucune star dans le game. J'attends toujours mon autographe d'Angèle. D'ailleurs, c'est pas toi le meilleur, t'es qu'un mauvais player. Quand tu fumes, t'as les yeux rouges comme Mouzane. Obligé d'appeler les piliers de Demon Slayer. T'as pas la ref. Au collège, personne te connaît. À part mon prof d'histoire, fan de poney.
Oh, il est gentil.
Il a 60 ans, il est malentendant. Il habite seul avec sa mère dans la forêt. N'aie pas le seum, fais pas le jeune. Arrête avec tes mots d'ado. T'es grave chum. Et Fagum, dis-moi, où sont passés tes abdos
bah.
T'as pas de bling, t'as pas d'army.
Hein?
Tes seuls fans, c'est des mamies.
Non.
Personne vient voir tes chorégraphies moisies, même pas tes amis. Papa, j'espère que tu m'en veux pas.
Okay.
Devant tes clips, je rigole pas. Tais-toi, laisse-moi regarder Joyka. T'as pas la
bien vu le tacle, mais je l'évite comme Olivier Tom. J'arrive, body cake comme Shaft, John McClane, Cobra, Jack Slater ou Nicky Larson.
Je connais.
Tu joues les vols qui rient, mais t'es pas de taille face à mon artillerie. Et toutes les phrases qui riment dans mon joli cahier Waikiki. Ouh ha, boum, bidi bye bye.
Tranquille.
Tu chailles, tu te crois dans le coup, c'est cela, oui. Branché comme une Tesla, mais que peux-tu contre une ferraille? Je crois que t'as pas compris, je t'oublie dans les marécages de la mélancolie. En compagnie d'Artax. Hey, petit Tamagotchi, tu veux que je te nourrisse? Contacte-moi par fax.
Hein?
Sache qu'un tas de personnages que tu trouves illustres seront oubliés comme Brandon Brenda Cortex Minus, il que ou Pticus.
Chut.
T'as le même style que tes copines, t'as le baggy, t'as le legging et le pas def. T'as peur de pas trouver ta place, tu te fonds dans la masse. Pourquoi tu fais la chef? Je te file une pièce de 5 francs, une chignole, un bout de ruban. C'est pas insultant? C'est le kit intégral pour fabriquer ta médaille d'argent. Tu communiques dans le skeu muskin, mais où est le respect, hein?
Wesh.
T'as plus la tête sur les épaules normales, il ne peut en rester qu'un.
T'es éclaté, franchement, comme tes playlists.
Ouais, mais 75% de ce qu'il y a dans tes playlists, c'est moi qui t'ai fait découvrir. Tous les Disney déjà, quand t'étais petite. Doja Cat, Ice Spice, Central Cee.
Ouais, Hippo, il apparaît pas dans mes playlists en tout cas.
On a la même langue, mais pas le même jargon, pas les mêmes gestes. On a les mêmes rêves, on a les mêmes valeurs, mais. T'as pas la rêve. On a la même langue, mais pas le même jargon, pas les mêmes gestes. On a les mêmes rêves, on a les mêmes valeurs, mais.
Et pour poursuivre donc, sur votre rapport à la famille, les souvenirs, le vécu du temps qui passe, oui, je suis retombée sur un titre, Ma cabane en 2022, où ouais, voilà, vous faisiez revivre le petit enfant plongé dans ses perceptions face au monde adulte, une véritable immersion dans la tête d'un bébé. Bon, j'ai croisé aussi le titre Vaccin contre l'automne, là, qui sonne un peu lutte ou remède contre la nostalgie. Quelle est votre perception du temps, Hippocampe Fou?
Bah, quelle question philosophique, là. C'est...
Oui, mais en même temps, vous en faites un peu. En même temps, vous en faites un peu de la philosophie avec ce choix de titre de l'album Présent.
Présent, oui, et bah, oui. Disons que je. Moi, je suis quelqu'un de nostalgique, voilà. C'est-à-dire que j'ai toujours tendance à me tourner vers le passé. Les souvenirs, je les trouve douloureux et réconfortants en même temps. Et il m'arrive d'être dans le présent, en train de vivre quelque chose et d'être déjà en train de mettre, de créer une sorte d'effet sépia dans ma tête, comme si ce qui était en train de se passer était en train de se transformer en souvenir. Et par exemple, les anniversaires, voilà, à chaque fois que quelqu'un souffle ses bougies, notamment mes enfants, j'ai envie de pleurer parce que je me vois déjà quand je sais pas, c'est comme si j'avais un flash dans le futur, un flash forward là, et que je me voyais vieux avec mes enfants, avec leurs propres enfants. Et en même temps un flashback où je me revois petit avec des gens qui sont plus là, etc. Bon, il y a ce truc un peu de peur du temps qui passe et de devenir un peu aigri aussi avec le temps parce que on est de moins en moins émerveillé parce qu'on a découvert beaucoup de choses. Plus on vieillit, plus on a voyagé, rencontré des gens, eu des rêves qui ne se sont pas réalisés. Et voilà, je pense que l'idée, c'est de, en tout cas cet album-là, c'était de se dire, ok, t'es nostalgique, tu le sais, mais il faut un peu lutter contre ça. Et finalement, à partir du moment où tu sais que le temps passe vite, eh ben profite de chaque instant, parce qu'en plus, tout peut s'arrêter d'un coup. Et ça, on en a, voilà, malheureusement, on a la preuve de plus en plus, puisqu'on a certains proches qui disparaissent. Et on voit bien qu'on peut passer de vie à trépas en deux secondes, d'un moment de joie extrême à un moment de tristesse absolue. Et c'est vrai que, bah, quand on est témoin de ça, on se dit, bah, profitons-en. Voilà. Là, je fais cette interview à fond. On sait pas. Il va peut-être y avoir un tremblement de terre, je sais pas. Au nucléaire, on ne sait pas, tout peut arriver. Donc, il faut essayer d'être dans le présent. Et donc, quand on est père de famille, bah, de profiter de nos enfants tant qu'ils sont là. Et en même temps, les regarder grandir et les accompagner. Et ne pas non plus juste les idéaliser en tant qu'enfants et se désintéresser d'eux dès qu'ils deviennent ados ou adultes en disant c'est bon, ils vivent leur vie. Moi, je vais continuer la mienne. Moi, je veux rester soudé. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce morceau avec ma fille, papa la ref. Je me suis dit, il y a un moment où on va être en désaccord, elle va me trouver ringard, tout ça. Et donc, je voulais désamorcer ça en faisant un morceau, une sorte de clash intergénérationnel, où finalement, bah, elle me dégomme déjà dans le texte, etc. Et finalement, quand elle pensera vraiment ça, ou qu'elle sera vraiment ce qu'elle... Ouais, bah, tu vois, je savais qu'un jour t'allais me trouver nul, et vieux et ringard. Et c'est pour ça qu'on a fait ce morceau. Voilà.
Oui, donc finalement, oui, le pouvoir du moment présent à la Eckhart Tolle, il n'est pas complètement là encore. Non, parce que ça m'a fait penser à ce philosophe, justement. Voilà, Eckhart Tolle qui a écrit Le pouvoir du moment présent.
Non, mais c'est bien de donner des références. Moi c'était Lao Tzu sur le. Le nostalgique vit dans le passé, l'angoissé dans le futur, le bienheureux vit dans le présent. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Et donc quand je cherchais un titre à l'album, il y avait non seulement le fait que la plupart des textes sont écrits au présent dans cet album, il y a deux trois futurs tout ça, mais c'est quand même au présent, même quand je parle du passé. Donc ça marchait plutôt bien. Il y avait le côté présent, donc le temps, voilà. Il faut savourer cet instant, etc. Et il y avait aussi le sens présent, enfin présent au sens d'être là, d'être présent physiquement et mentalement auprès de ceux qu'on aime. Donc présent dans le présent. Voilà.
Eh bien, écoutez, on va essayer d'être présent et vraiment dans le présent de la scène avec vous, parce que c'est tout bientôt là à Montpellier au Rockstore, jeudi 5 décembre à 19h30. Merci beaucoup pour cette interview, Hippo.
Ben, merci beaucoup, merci à vous.
Puis ben, on va vous souhaiter un super bon concert et avec plaisir de vous voir donc le jeudi 5 décembre, 19h30, Rockstore à Montpellier.
Eh ben merci encore, à bientôt.
On s'accroche puis on laisse fuir. On se construit sur des vestiges. À l'affût d'une éclaircie. On boussole mais on respire. On s'accroche puis on laisse fuir. On se construit sur des vestiges. À l'affût d'une éclaircie. On boussole mais on respire.
C'est pas grisant, c'est déprimant. Le monde est sourd et trop bruyant. Ça c'est épuisant. Les optimistes ont un slogan pas si fascinant. Après la pluie vient le beau temps. Ouais c'est évident. La joie nous éclaire de façon éphémère. Ça c'est navrant. Mais faut pas se laisser faire. C'est clair, c'est la vie qui nous l'apprend. Quand t'es sur les routes tu la crans au fond du gouffre. Faut parfois prendre du recul pour aller de l'avant. Enthousiaste. Faut laisser passer l'orage, c'est vital.
fuir. On se construit sur des vestiges, à l'affût d'une éclaircie. On est seul mais on respire.
On s'accroche puis on laisse fuir. On se construit sur des vestiges, à l'affût d'une éclaircie. On est seul mais on respire.